Bonjour à tous. Je suis vraiment dans la joie de venir ici. Je pense que c'est la deuxième fois que je suis venu ici, parce que ça fait un peu longtemps que j'étais ici avec les jeunes. J'avais accompagné les jeunes et on avait une cérémonie de jeunes ici et je ne me rappelle plus après. Et voilà, je me retrouve aujourd'hui ici à la chaire. C'est comme mon frère l'a dit, que je fais partie aussi des églises de l'Alliance et je suis originaire du Congo qu'on appelle Congo Kinshasa. Et vous savez bien que selon l'Alliance, c'est le premier pays que les Américains d'origine, donc Albert Simpson, avec la vision qu'il avait, c'est le premier pays auquel il a envoyé des missionnaires. Donc ça fait plus d'un siècle que le Congo vraiment est évangélisé par l'Alliance. Donc voilà, nous sommes un des fruits de l'Alliance qui vient du Congo et qui sommes ici en France pour les études. Et voilà, on continue à évoluer. Donc je suis en train de faire mon master en théologie à Vaux-sur-Seine et une spécialisation aussi en liturgie à la faculté catholique. Donc c'est juste pour enrichir aussi dans ce domaine de la théologie. Je suis aussi musicien à l'EPED, l'église protestante évangélique de la Défense, et on continue à œuvrer dans le Seigneur dans cela. Et je suis aussi accompagné de Valérie, qui est ma fiancée, et peut-être, si Dieu le veut, d'ici le mois d'avril, nous serons mariés. Donc, que Dieu soit loué pour cela. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, ce matin, comme le Seigneur me l'a mis à cœur, de partager avec vous cette lecture de Luc chapitre 2, à partir du 21e verset jusqu'au 50e verset, comme on vient de nous le lire. Et j'aimerais un peu le diviser en deux parties, je me dirais. La première partie parle plus de Siméon et Anne, donc de l'attente du Seigneur de la part de Siméon. Et la deuxième partie, qui part de 41 à 50, qui va nous parler de l'enfance de Jésus-Christ. Mais nous allons d'abord prier avant de commencer. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es digne de louange, Seigneur. Oui, tu nous as dit dans ta parole, allez et faites de toutes les nations des disciples, Seigneur. Nous tous qui sommes ici, nous venons de loin, nous sommes d'origine de loin. Mais nous sommes là, Seigneur, en train de partager ta bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient de toi-même, Seigneur. Merci parce que tu es présent et ta main est tellement grande, Seigneur, qu'elle nous bénit tout un chacun de nous. Merci pour cette opportunité et merci, Seigneur, pour les bénédictions que tu vas verser dans chacun de nous qui sommes dans cette salle et pour ceux qui sont venus et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Merci parce que tu es grand, au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est comme je le disais, Luc chapitre 2, à partir du 21e et 50e verset. La première partie, c'est celle de 21 à 32, où je disais qu'on nous parle du rendez-vous. Il y a quelqu'un qui attendait depuis très longtemps la venue du Seigneur. On découvre là une personne, un personnage du nom de Siméon. Bien que ce nom soit parfois 50 fois dans la Bible, c'est un nom aussi des 12 tribus d'Israël. Et c'est un nom qui signifie écouter. Un nom qui signifie écouter. Écoute. Qui écoute? C'est une personne qui écoute. Alors, cette personne, Siméon, savait si bien écouter qu'il entendit déjà, la Bible nous dit, le Saint-Esprit lui dire qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, nous voyons déjà ici que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre avant même que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, puisse nous dire que je vous laisserai mon esprit. Mais l'Esprit déjà était là en avance, continuait à œuvrer. Et dans ce passage, nous pouvons voir que l'Éternel qui a, travers l'Évangile, place l'homme dans une nouvelle position devant lui. Il n'oublie pas son ancien peuple. Dès le début, depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse, nous devons savoir que notre Seigneur est un Seigneur, est une personne, est un Dieu de dialogue, qui aime le dialogue. Il y a eu la chute de l'homme, mais il a reloué cette chute-là par le dialogue. Et même avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était toujours par le dialogue. Alors pour renouer encore cette alliance avec nous, avec l'homme pécheur, il commence par le dialogue. Et ce dialogue était toujours cette promesse de Jésus-Christ. L'Éternel était là pour répondre à toutes nos pensées de tout cœur d'homme touché par la grâce en Israël. Et son cœur était spécialement tourné vers ceux qui menaient le deuil sur le péché et la désolation de son peuple, vers ceux qui attendaient la délivrance. Il avait promis que je vous enverrai un fils, je vous enverrai quelqu'un. Et là, nous avons l'accomplissement de cette personne. Et nous savons bien qu'il n'y a pas longtemps, nous avons fêté la Noël. Et on continue aussi dans ce sujet-là de l'enfance, la venue du Christ parmi nous. Nous avons la foi. Nous voyons que cette personne, Siméon, était là pour attendre le Seigneur. Il était patiemment, il était là en train d'attendre cette personne. Et nous aussi, malgré la foi parfois, il nous est difficile aussi de nous confier au Seigneur, d'attendre aussi ces promesses-là, cette promesse venir. Nous voyons que Siméon, il avait attendu pendant très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il attendait cela. Et jusqu'à ce qu'il a vu cet accomplissement. Il y a parfois aussi pour nous des difficultés de cette foi à se confier à Dieu et d'attendre le moment de Dieu et d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est un moment favorable. On doit aussi, en tant que chrétien, en tant que ceux qui sont engagés dans le Seigneur, avoir ce domaine-là d'attendre, d'être patient pour les promesses du Seigneur. Et nous devons savoir aussi, bien-aimés, que le Seigneur reste toujours fidèle à sa promesse. Il accomplit toujours tout ce qu'il promet. Et ici, dans ce passage que nous voyons, Luc chapitre 2, 21 à 32, Siméon fut fidèle au rendez-vous de Dieu que Dieu lui avait donné. Il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est ainsi que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il reçut l'enfant Jésus dans ses bras, un manquement. Nous pouvons dire qu'un manquement à ce rendez-vous-là pouvait aussi compromettre peut-être la venue du Seigneur. Peut-être aujourd'hui, il y a de ceux qui se disent, bon, on peut prendre l'exemple, excusez-moi, on peut se dire que si ce jour-là, Siméon s'était dit que, bon, ben, aujourd'hui je ne vais pas au temple, je reste chez moi, je suis fatigué là, hier j'avais fait ceci, et aujourd'hui il faut que j'aille au temple, non, je me repose. Je ne sais pas quel serait le plan de Dieu sur la venue du Christ, parce qu'il était là en train d'attendre cet enfant. Et il devait tous les jours aller au temple parce qu'il savait que cet enfant-là, il devait le voir. Et il était poussé par l'Esprit de Dieu. C'est comme cela qu'il a vu cet enfant. Et la question est de savoir, est-ce que vraiment nous, en tant que chrétiens, sommes-nous toujours aussi fidèles au rendez-vous du Seigneur? Que ce soit les moments de prière que nous faisons dans nos cultes, que ce soit les journées de jeûne, que ce soit les manifestations ou des journées d'évangélisation, est-ce que vraiment nous sommes fidèles à ce rendez-vous? Ou même, il y a aussi des moments où nous nous sommes engagés chez nous-mêmes à prier à telle heure, à faire des cellules, des cultes de famille, est-ce que nous sommes fidèles à ce rendez-vous? Nous devons être fidèles à l'attente du Seigneur, à ce moment du Seigneur, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le Seigneur va agir dans nos vies. Amen. Nous devons être des personnes qui sont toujours près du Seigneur pour cela. Oui, voilà Siméon, il était là tout près du Seigneur, il était toujours avec le Seigneur, il était toujours près du Seigneur et il n'a pas manqué à cette venue-là. Mais il peut aussi avoir des moments où nous pouvons manquer de rendez-vous, se tromper aussi de rendez-vous, d'aller ailleurs au lieu d'être au rendez-vous du Seigneur. Si peut-être Siméon s'était dit, bon, aujourd'hui je pars pas, je vais d'abord par ici, je passe par là, je vais d'abord au marché, je vais d'abord ceci, je vais visiter un ami, et puis après venir au temple. Je ne sais pas quelle serait cette bénédiction, comment il pouvait avoir la présence de voir le Seigneur devant lui. Et nous voyons que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et nous avons aussi une autre personne dans la Bible, on nous parle de Anne, qui ne quitta pas le temple, elle servait le Seigneur en jeûne et en prière. Au verset 36-37, nous voyons qu'ils étaient tous patients. Il n'y avait pas que Siméon, il n'y avait pas que Anne, mais je pense qu'il y avait aussi tout un groupe de gens qui étaient là, fidèles au Seigneur, c'est comme nous le sommes ici. Notre présence ici au temple aussi veut dire que nous attendons la venue du Seigneur. Ça signifie aussi à cela que nous sommes là fidèles à attendre la seconde venue du Seigneur. Nous sommes là réunis ensemble. Et l'exemple que nous voyons ici, que Anne ne quitta pas le temple, elle était là à servir le Seigneur. Combien sont-ils d'entre nous qui sont ici au temple, qui œuvrent dans l'œuvre du Seigneur dans telle ou telle activité? Parfois dans d'autres églises, il y a des difficultés dans tout cela. Mais nous avons l'exemple d'une femme, Anne, qui ne quitta pas le temple et qui était fidèle. Et Siméon aussi se réjouissait dans tout cela. Le fait d'avoir vu le Seigneur, son cœur était apaisé, son cœur était réjoui. C'est nous aussi, c'est la même chose aussi avec nous. Nous pouvons aussi bénéficier de cette grâce lorsque nous sommes fidèles au Seigneur. Et nous bénéficions aussi, lorsque la promesse est là, nous bénéficions aussi de ces bénédictions. Et lorsque Siméon bénit Joseph et Marie, l'Esprit leur donne d'annoncer le résultat immédiat de la présence de l'enfant. Jésus devait être une pierre de touche pour plusieurs cœurs, un sujet de chute aussi bien que le révèlement de plusieurs personnes. Il était là aussi pour bénir, aussi pour semer la confusion. Nous savons bien que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, attendaient un sauveur. Mais quel était ce sauveur? Un enfant né d'un charpentier, fils d'un charpentier, mais qui c'est qui? À Bethléem, mais pourquoi il doit venir de Bethléem? Non. Mais c'était le Seigneur, parce que la Bible nous dit que lui-même Dieu a déclaré cela. Il a dit que voilà, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui j'ai mis toute mon espérance. En ce moment-là, bien-aimés, nous devons savoir que Israël était en effet tombé très bas. Mais ils ne le savaient pas. Alors ils avaient besoin d'un sauveur. C'était le moment que Dieu a choisi, que Jésus-Christ devait naître pour nous, parmi nous, pour venir nous sauver. Et l'Éternel va faire connaître en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, parmi nous. Il va le faire connaître, son amour, sa bonté, en envoyant ce Fils unique, dans versets 41 et 50. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous voyons que lorsque nous sommes fidèles, Dieu reste fidèle à ses promesses et il ne change pas ses promesses. Ce qu'il a dit pour moi, ce qu'il a dit pour chacun de nous ici, il l'accomplira. C'est ça l'objectif du Seigneur. Et chacun de nous ici, nous avons des bénédictions particulières. Nous avons des promesses particulières. Moi, j'ai ma promesse. Valérie a sa promesse. Mon frère à côté a aussi sa promesse de la part de Dieu. Et c'est comme cela que le Seigneur accomplit à chacun sa promesse. La deuxième partie, c'est celle qui parle de l'enfance de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on aura comme thème « Attention à la négligence ». C'est comme je l'ai dit avant. Nous devons faire attention à la négligence. La négligence aussi, peut-être Siméon, s'il était négligent, il n'aurait pas bénéficié de cette présence de Jésus-Christ dans ses mains, de cette promesse, de voir cette promesse. Mais il a été actif. Et cette deuxième partie ici, on nous parle aussi d'une certaine négligence qui peut venir d'une part ou d'une autre. On nous parle de l'enfance de Jésus-Christ. Et cette partie-là de 21 à 42, c'est, je pense, la seule partie dans la Bible qui nous parle peut-être de où on peut voir l'enfance de Jésus-Christ. Elle nous montre l'époque où Jésus-Christ grandissait selon la coutume et les parents devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et c'était une Pâque juive, une très grande fête juive. Et à 12 ans, ses parents l'amenèrent avec eux selon la coutume. Et nous devons savoir aussi que à 12 ans, l'enfant était déjà considéré comme un jeune homme et devenait aussi disciple de la loi. Et en cette qualité, à Jésus-Christ, il lui était permis d'assister à la fête de Pâques juive. Et même tous les garçons sont tenus d'observer la loi de Moïse et peuvent lire les Écritures dans la synagogue. Et la Bible nous montre ici que Jésus-Christ, comme un adolescent respectueux de ses parents, de la tradition juive ainsi que de ses commandements, il monte à la fête avec ses parents. Il partit à cette fête avec ses parents avec beaucoup de respect. Oui, parfois il est difficile aussi de voir, parmi nous, nous pouvons avoir aussi des familles, des enfants, mais de ceux qui ne viennent pas parfois à l'église. Mais nous avons un bel exemple de voir ici que les parents de Jésus-Christ, ils venaient en famille, ils étaient tous en famille. Certainement, la Bible nous parle aussi que Jésus-Christ avait des frères, donc certainement que ses frères aussi étaient à côté. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ était soumis à ses parents. Et dans tout cela, nous remarquons aussi que Jésus-Christ reste au temple. Mais qu'est-ce fait-il au temple? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait au temple? Que fait-il au temple? Qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans peut faire au temple? Qu'est-ce qu'il peut faire là sans ses parents? Comment peut-il y vivre? À cette époque, nous devons savoir que les parvis du temple étaient renommés à travers toute la Judée comme un lieu d'apprentissage. C'était le lieu où tout le monde venait discuter, tout le monde venait apprendre. C'était à peu près le début d'un système éducatif. Donc ça commençait au pied du temple. Et à propos de Jésus-Christ, le texte nous dit que ceux qui étaient là furent frappés de son intelligence et de ses réponses. Sa sagesse qui étonnait ses enseignants plutôt. Jésus-Christ était proche de Dieu et Dieu était proche de lui. Il était tellement sage, il était intelligent, que cette intelligence-là a surpris certaines personnes. Les gens se sont dit, mais quelle intelligence! Comment est-ce qu'un petit enfant pouvait répondre comme cela? Ça, c'est la Bible qui nous le dit, mais on peut aussi dire, on peut aussi remarquer si il y a parmi nous des enseignants ou des professeurs d'école. Quand un enfant est vraiment intelligent, on en parle à tous les professeurs. Et là, on voit vraiment que Jésus-Christ, il était vraiment intelligent. C'est quelqu'un qui savait donner des réponses. Il donnait déjà des réponses. Il questionnait et donnait aussi des réponses dans tout cela. Nous voyons aussi que Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne de dialogue dans notre vie. C'est une personne de dialogue qui donne des réponses, qui donne des solutions à toutes nos, à tous nos problèmes. Lui seul sait quelle réponse qu'il faut à ton problème, quelle réponse il faut à ma situation, quelle réponse il faut à mes soucis. Et tout cela s'est passé dans le parvis du temple. Et nous devons aussi le savoir aussi que même, nous, on a l'exemple de Paul, Actes chapitre 22, verset 3, a lui aussi étudié à Jérusalem, dans ses parvis au pied de Gamaliel, l'un des enseignants les plus renommés de l'époque. Et même aussi si nous allons plus loin, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 22, nous voyons encore plusieurs personnes qui étaient au temple en train d'apprendre. Nous avons l'exemple de Samuel. Même l'enfant Samuel dans l'Ancien Testament, il était là dans le temple formé à être à la disposition du temple et de Dieu. Un enfant qui appartiendra au Seigneur pour toute sa vie. C'est un enfant proche de Dieu et Dieu aussi proche de lui. Voilà un peu la présence de ces enfants au temple. Donc le temple était considéré comme un lieu d'apprentissage où les gens devaient acquérir une certaine sagesse de la loi de Moïse ou de la parole de Dieu. Et c'est la même chose aussi avec Jésus-Christ. À 12 ans, il reste près de son Père céleste. Les affaires de Dieu lui concernent. C'est la réponse qu'il avait donnée à la fin à ses parents. Ne savez-vous pas que les affaires du Seigneur, je suis là pour les affaires de mon Père. Parce que cela lui tient à cœur. Ce sont ses affaires. C'est la vocation de la vie qui se dessine ici à l'avance dans le temple. La présence de Jésus-Christ au temple n'est que le moyen de signaler son accès à la maturité et à sa responsabilité face à sa mission. Mais, après la célébration de cette fête au temple, on se met alors au retour du chemin. Souvent, quand il y a pèlerinage, moi je me rappelle aussi chez nous au Congo, souvent quand on voyageait, on allait dans une autre ville pour aller évangéliser. Souvent on allait en groupe. Si on n'avait pas de véhicule ou bien la route était mauvaise, on laissait le véhicule 4x4 et puis on continuait à pied. Et souvent on voyageait en groupe, voilà, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Et s'il y avait des enfants, voilà, un peu âgés qui pouvaient marcher aussi avec nous, on continuait, on marchait ensemble. Et C'est comme ça à peu près que ça se faisait aussi ici. Les grands marchaient, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, dans le groupe. Maintenant, la fête juive est terminée, il faut maintenant rentrer. Et au cours du chemin, un problème se pose. Où est Jésus-Christ? Où est-ce qu'il est? On regarde dans la famille, il n'est pas là. On regarde chez les voisins, il n'est pas là. Moi, je me rappelle aussi que souvent, nous, dans nos pays en Afrique, on n'a pas le système d'aller prendre les enfants à l'école ou bien, voilà. Ils vont souvent à l'école en groupe, donc en groupe de quartier, voilà. Ils se connaissent, ils vont à l'école, ils se connaissent, ils vont au marché, ils se connaissent, voilà. Et c'est à peu près la même chose aussi ici, donc on voyageait en groupe. Pourquoi voyager en groupe? C'est pour se protéger un peu des attaques, des trucs comme ça. Mais donc, on est là en groupe. Et c'était la même chose aussi ici. Les parents de Jésus-Christ terminent ils terminent la fête de Pâques, ils rentrent. Mais soudain, en route, tout à coup, une question se pose. Où est Jésus-Christ? Les visages se regardaient tout autour. Où est Jésus-Christ? Il n'est pas dans la caravane des pèlerins. Il faut alors le chercher. On commence à le chercher, mais il n'est pas là. Et on sait bien ce que ça fait. Les parents qui ont les enfants, on sait un peu ce que ça fait quand on ne voit plus son fils, quand on ne voit plus son enfant. Ça stresse un peu. Et parfois, on peut même tout laisser à cause de l'enfant. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être il y a eu un moment où ils ont oublié peut-être d'aller prendre l'enfant à la crèche. Croyez que non, c'était la maman qui devait aller chercher, mais le papa, on a oublié. Bon, ça stresse un peu. C'était exactement la même chose ici. Jésus-Christ n'est pas là. Il est absent. Et au bout de 3 jours, pour le retrouver au temple, ils vont rentrer. Au bout de 3 jours, on va le retrouver au temple. Qu'est-ce qu'il faisait au temple? C'était juste le dialogue. Il parlait. Il voulait parler. Il commençait déjà sa mission. Il parlait. C'est comme cela qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut continuer de parler avec nous. Il dialoguait dans le temple avec des réponses intelligentes. Et les gens étaient étonnés de voir ces réponses-là. Et de nos jours, on pouvait attribuer cette faute, peut-être, ou soit à la femme, ou soit à l'homme dans certains contextes. Mais il s'agit ici d'une certaine négligence que nous pouvons avoir aussi des parents responsables ou de nous-mêmes. Ce n'est pas Jésus ici qui est perdu, bien-aimé, mais ce sont les parents qui l'ont perdu. Et si Marie et Joseph ont été négligents envers Jésus-Christ, combien pouvons-nous, nous aussi, être négligents envers ce Jésus-Christ-là? Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi être un peu négligents. Et dans tout cela, la négligence, dans quel sens? Il y a parfois aussi, on peut trouver des gens dans l'église ou dans le culte, se dire que, bien dans une famille chrétienne, se dire que non, moi je suis chrétien, voilà, je viens à l'église parce que je suis chrétien. Non, moi je suis chrétien parce que je viens à l'église. Voilà, moi je suis chrétien parce que je fais partie d'un groupe. Non, moi je suis chrétien parce que je fais partie d'une chorale. Je suis dans le conseil d'administration. Je suis dans voilà, je fais ceci. Ou moi, comme moi je suis enfant de pasteur, je pouvais aussi me dire non, moi je suis chrétien parce que je suis enfant de pasteur. Mais la question qu'il faut se poser, en tant que chrétien, est-ce que Jésus-Christ est là, là-dedans, dans ton cœur? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il est réellement qu'il a sa place? Parce que avoir Jésus-Christ avec soi, c'est de le laisser prendre tout le contrôle de notre vie. À 100%. Moi, je me rappelle un missionnaire canadien chez nous au Congo qui prêchait souvent et qui disait que souvent, quand on... C'était aussi un professeur, voilà, c'était un enseignant. Et quand on faisait le bac, il y avait des étudiants, des élèves qui réussissaient parfois à 67%, 77%, 68%, 55%. Donc nous, c'est le pourcentage. Chez nous, c'est ça le système. Et 78%, bon, quand quelqu'un a 78%, vraiment, c'est le maximum. Mais il nous donnait l'exemple qu'avec Jésus-Christ, il ne s'agit pas de 50%. Il ne s'agit pas de 70% pour être aux normes. Avec Jésus-Christ, il faut laisser la place à 100%. 100% pour Jésus-Christ. Et si tu te dis 70% et le 30% qui reste, c'est pour qui? à qui est le 30%? Si on sert le Seigneur à 90% et le 10%, même à 99% et le 1%, à qui appartient le 1%? Si ce n'est pas au Seigneur, alors c'est au diable. Nous devons faire un effort. Bien sûr, c'est difficile, mais le Seigneur est là pour nous. De nous efforcer à laisser la place du Seigneur à 100%. Et c'est ce qui se passe aussi ici. Moi, je peux dire que je suis enfant de pasteur. Je suis chrétien parce que je suis enfant de pasteur. Mais est-ce que réellement le Jésus-Christ est dans mon cœur? Oui, je suis chrétien parce que je suis choriste. Est-ce que réellement le Seigneur est là dans mon cœur? Peut-être que je peux me dire que non, je suis enfant du Seigneur, je suis fils de pasteur, je suis chrétien. Mais je suis chrétien parce que mon Père est là. Et parfois on peut se dire que non, je suis chrétien parce qu'il y a la groupe de louanges, non. Mais c'est question d'avoir Jésus-Christ en soi et de ne pas oublier cette personne qui est là. D'être tout le temps, en tout moment avec lui. Dans notre marche, dans notre vie chrétienne, le moindre oubli, la moindre négligence peut nous conduire à une fatalité. Peut nous conduire à une chute, peut nous conduire à des troubles, voire même jusqu'à la mort. Il peut aussi arriver par négligence, où que tu sois, de croire que Jésus-Christ est là dans ta vie. Or, il n'y est plus. Il est resté depuis longtemps. Il est resté peut-être quelque part. Aujourd'hui, on est en 2014, janvier 2014. Est-ce que Jésus-Christ est avec toi aujourd'hui en 2014 ou bien il est resté quelque part en 2013? Nous avons vu que les parents de Jésus-Christ ont fait un effort de rentrer vers Jérusalem pour aller le chercher. Et c'est nous aussi, nous devons faire un effort. Il est présent. Là où nous l'avons perdu, essayons, faisons un effort d'aller le chercher là où il est. Est-ce qu'aujourd'hui, si je peux prendre un autre exemple, lorsque nous sortons de l'église, est-ce que nous sortons avec Jésus-Christ avec nous? Ou bien nous le laissons ici, seul? C'est ça, nous devons continuer de vivre. Ou est-ce que tu as toujours l'habitude d'oublier le Seigneur, de le laisser? Es-tu comme ces pèlerins dans le retour sans Jésus-Christ? Et quand on vient à l'église, ce n'est pas pour venir laisser Jésus-Christ ici. Quand on vient dans un groupe de louanges, quand on vient dans une réunion de prière, quand on vient dans une journée de jeûne, ce n'est pas pour abandonner le Christ là-bas, mais c'est pour continuer avec lui. C'est pour s'enrichir aussi avec lui. Et souvenez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où demeure le Saint-Esprit. Nous devons aller tout le temps avec Jésus-Christ, continuer et marcher avec lui. C'est pour cela que notre manière de penser, notre manière de voir les choses, notre manière de nous exprimer, d'entendre et aussi bref de vivre doit être conforme à la volonté du Seigneur. Et en parlant de cette négligence, je pourrais dire qu'il y a des dangers de devenir négligent spirituellement de trois façons. Nous avons ceux qui laissent le Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, en arrière dans leur marche, dans leur vie. Et en cas d'obstacle devant eux, ils paniquent et ils sont troublés. Ils n'ont pas de paix. Ceux qui laissent le Christ à côté et en cas d'obstacle, ils sont troublés. Il y a aussi ceux qui bousculent le Christ dans leur marche. Ils ne laissent pas la totalité de leur vie, la direction de leur vie, de tout à Christ. Et ils étouffent la présence du Seigneur. En parlant de ceux qui laissent le Christ à côté, c'est comme on peut dire, il y a ceux qui considèrent le Christ comme une porte de secours. Vous savez, une porte de secours, peut-être qu'il y en a quelque part ici, la porte de secours, elle est toujours là. Ah, voilà, elle est là. Pour le moment, on ne s'en sert pas. Voilà. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Bon, même s'il y a les podiums des enfants, mais on ne s'en sert pas pour le moment. Voilà. Mais quand il y a quelque chose, un obstacle, c'est par là qu'on va passer. Et il y a aussi de ceux, parmi nous les chrétiens, qui considèrent le Seigneur comme ça, que maintenant on n'en a pas besoin parce qu'il est là, ça va, c'est bon. Là, je suis tranquille. J'ai mon boulot, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, ça va, c'est bon. Mais en cas d'obstacle, je cours là-bas. Seigneur, voilà, je suis là. Mais ce n'est pas une bonne manière d'être avec le Seigneur. Il faut toujours marcher avec Jésus-Christ, être avec le Seigneur dans sa vie. Il y a ceux qui bousculent le Seigneur, qui le connaissent bien, mais qui ne veulent pas laisser la totalité de la place au Seigneur, qui étouffent la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et il y a ceux aussi qui marchent seuls depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est à nous maintenant d'aller chercher ces gens-là qui depuis longtemps marchent seuls dans leur vie. Alors, comment marcher avec le Christ sans tromper, sans tomber dans la négligence? Comment est-ce qu'il faut faire? Pour une bonne marche dans notre vie chrétienne, pour terminer, il y a trois manières pour une bonne marche dans la vie chrétienne. La première chose, c'est de demeurer dans la grâce, demeurer dans la parole de Dieu et de ne pas avoir honte. La Bible dit que la parole de Dieu est celle qui éclaire notre chemin. Sans la parole de Dieu, il nous sera difficile d'aller en avant et même difficile aussi de nous épanouir dans notre vie. De ne pas avoir honte de l'évangile, de ne pas avoir honte de se dire que non, moi je suis chrétien, de ne pas avoir honte de se dire que non, de défendre l'évangile, de défendre la cause du Seigneur. Et la Bible nous dit aussi que celui qui aura honte du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de lui. Être fidèle à ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce qui peut nous amener à la réussite dans n'importe quel projet que nous envisageons dans notre vie aussi. La honte, par contre, n'est qu'un frein à notre progrès. Lorsque nous avons honte, nous ne progressons pas. Nous devons témoigner notre vie. Ce que nous sommes ici, dans la communauté fraternelle, en tant que chrétiens, et nous devons aussi le faire aussi ailleurs, là où nous travaillons, dans tout ce que nous faisons. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler aussi HDL, DHL, voilà. Et souvent dans les trucs là, il y a beaucoup de gens, beaucoup multiculturels, tout ça. Et j'ai eu l'occasion d'avoir les musulmans, voilà, qui étaient là, voilà. Et je n'avais pas honte de témoigner ma foi. S'ils sont musulmans, moi je suis chrétien, voilà. Je reste chrétien, je suis chrétien. Et ils me posaient des questions, ah comment vous faites dans ceci, comment vous faites dans cela. Et curieusement, moi aussi j'apprenais ce qu'ils faisaient. Donc on gardait, je n'avais pas honte, on ne doit pas avoir honte de présenter vraiment sa position chrétienne. La deuxième chose, c'est de marcher par l'esprit. Pour une bonne marche dans la vie chrétienne, nous devons marcher par l'esprit dans une nouveauté de vie. Qu'est-ce que je peux dire là? Que Dieu agit souvent dans nos corps où il y a présence de son esprit. Lorsque la présence du Seigneur est dans ce corps-là, et c'est là où le Seigneur agit. Quand il n'y a rien, parfois le Seigneur ne peut pas agir aussi. Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit sont fils de Dieu, héritiers de Dieu et ont la faveur de Dieu dans leur vie. L'esprit de Dieu, c'est quoi? L'esprit de Dieu, c'est ce qui nous conduit dans la vérité. L'esprit de Dieu, c'est ce qui nous conduit avec assurance jusqu'au bout de nos projets. Il commence avec nous et il termine avec nous. L'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui nous révèle des bonnes choses. Celui qui se laisse guider par l'esprit de Dieu, le Seigneur lui révèle aussi des bonnes choses. Nous voyons l'exemple ici de Siméon. Pendant longtemps, il était là en train d'entendre le Christ. Et le Seigneur aussi notre Dieu aussi lui a révélé des bonnes choses. Il a vu le Seigneur de ses propres mains. Marcher par l'esprit et dans une nouveauté de vie, c'est aussi marcher avec un nouveau cœur et un nouvel esprit sans revenir aux vieux péchés que nous avons laissés en arrière. Toujours en nouveauté de vie. Marchons alors par l'esprit et dans une nouveauté de vie en tout moment. Le troisième point pour une bonne marche dans notre vie chrétienne, c'est de marcher par la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Celui qui est obéissant, l'obéissant c'est qui? C'est celui qui vient à Christ, celui qui entend sa parole, entend la parole du Seigneur et c'est celui qui la met aussi en pratique. C'est celui-là qu'on appelle l'obéissant. On est alors semblable. Dans Luc chapitre 6, versets 46 à 48, la Bible nous dit que lorsqu'on est obéissant, on est semblable à celui qui bâtit une maison. Il a creusé profondément la terre. et a posé le fondement, il pose le fondement sur le roc. Et quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Luc chapitre 6, 46 à 48, nous voyons que la personne qui est obéissante, c'est une personne qui a le Christ en lui, qui a le fondement en lui. Il est bien tenu en lui. Et malgré les vagues, il reste tout droit, il reste avec cette puissance, cette force du Seigneur. Et en marchant par la foi dans l'obéissance, nous avons la sécurité. En marchant par la foi dans l'obéissance, nous avons de l'assurance. C'est ça, l'obéissant. Marcher par la foi, c'est marcher dans une ferme assurance de savoir que Dieu est capable de tout dans notre vie. Parfois, c'est difficile aussi de le croire que Dieu est capable de tout dans notre vie. À un certain moment, c'est juste un petit témoignage. On se disait à la Défense, on avait un petit problème au niveau de... On a un problème au niveau de nos locaux parce que la Défense est en train de grandir et ils veulent démolir une partie. Voilà, ils veulent démolir une partie pour construire. Et cette partie-là qu'on veut démolir, il y a aussi notre église là-dedans. Donc du coup, il y a des lois, il y a ceci, il y a cela, l'ermitage, des trucs compliqués, à tel point que on se dit c'est comme si les complications sont au-dessus de Dieu et nous sommes en bas. C'est ce que nous voyons. Mais à un certain moment, on se dit non, nous devons nous mettre à genoux et prier pour ce cas. Parce que peut-être que le Seigneur veut nous révéler d'autres choses dans cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pris le Seigneur, on l'a mis au-dessus de tout, de toutes choses. Et c'est lui, en ce moment, est en train de nous conduire dans ce plan d'ermitage qui se passe à la Défense. Et le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, il est en train de semer maintenant la confusion chez ces gens-là qui veulent démolir toute cette partie. Il y a des mensonges par-ci, par-là, il y a de ceux qui ont eu un peu d'argent, tout ça. Donc voilà, la confusion maintenant est là-dedans. Et nous sommes là au milieu. Voilà. C'est grâce à la prière, c'est l'assurance qu'il y a dans tout cela. Avoir confiance en Dieu, c'est la sécurité. En marchant par la foi, dans l'obéissance, nous avons la sécurité et l'assurance. Marcher par la foi, c'est marcher dans la ferme assurance que Dieu est capable de tout faire dans notre vie, tout, tout et tout. Moi, quand je dis tout, je pense au jour où je suis né. Le Seigneur était là. Et aujourd'hui, il est aussi avec moi. Donc, je sais qu'il sait. Avant moi, il savait que je devais venir. Pourquoi ne pas tout lui confier? Notre foi, donc, dépend de lui aussi. Marchons alors par la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Il peut nous arriver dans notre marche chrétienne d'être un peu négligent ou encore d'oublier la présence du Seigneur. Mais il nous suffira seulement de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile devant Dieu. De tout ce qui peut gêner notre marche. De se rappeler qu'il est présent et de le mettre à sa place dans notre vie. De garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et continuer le chemin avec lui. De ne pas l'oublier en demeurant dans sa parole par la foi. En demeurant dans sa parole sans avoir honte, en marchant par l'esprit, en nouveauté de vie et en marchant aussi par la foi et dans l'obéissance. Et rappelez-vous aussi que nous ne devons pas oublier Jésus-Christ. Où que nous soyons, nous devons savoir que Jésus-Christ est avec nous. Il marche avec nous. Moi, il y a un frère qui me disait que, c'est un collègue pasteur qui me disait que lui, en tout cas, il prie à toute heure. Donc, il a programmé son téléphone. Quand il est juste, il fait une courte prière. 10h, 11h, même la nuit, donc tout ça. La nuit, il se réveille, quand ça sonne un peu, ça fait un petit bip à 3h du matin, il fait une courte prière et il continue. Donc, il veut garder le Seigneur avec lui comme cela. Et moi, je me suis dit, oh, mais pourquoi ne pas adopter ce système? C'est bien aussi de se réveiller une nuit et de faire une courte prière, de dire soit merci Seigneur parce que tu es avec moi et tu continues ton sommeil. C'est aussi une manière de le faire. Mais savons, nous devons savoir aussi que nous ne devons pas oublier le Seigneur. Le Seigneur est toujours près de nous. Amen. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Parfois nous partons en chemin, sur le chemin de notre vie, sans vraiment prendre les précautions nécessaires. Puis après quelques temps de marche, nous nous disons, est-ce que Jésus-Christ est avec moi? Marche-t-il à mes côtés? Est-ce que nous allons le retrouver? Est-ce que je peux encore retourner pour aller le chercher? Où est-il? Que fait-il? Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Autant de questions qui font parfois battre notre cœur. Mais si vous vous apercevez que Jésus-Christ n'est pas avec vous, n'ayez pas peur. Il n'est pas loin. Nous devons savoir qu'il n'est pas loin. Il nous suffit seulement d'arrêter notre marche. Et tout comme Marie et Joseph, se lever, rentrer et aller le chercher. Certainement nous pouvons le trouver dans le temple, s'occupant des affaires de son père. Il est ici, le Seigneur est ici avec nous, les bras ouverts, il vous attend aussi. Il veut t'accueillir dans ses bras d'amour et t'accompagner partout dans ta vie. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que ta parole, Seigneur, est vivante. Et tu nous révèles, Seigneur, que tu es tous les jours avec nous. C'est comme ta parole qui a dit que tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du temps, Seigneur. Oui, Père éternel, il y a des moments où nous pouvons oublier ta présence dans nos vies et faire autre chose qui ne te plaît pas. Mais cela ne signifie pas que tu nous abandonnes, Seigneur. Tu es là toujours avec nous à bras ouverts et tu peux nous recueillir, nous relever et continuer la marche avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette promesse, Seigneur, pour cette garantie qui nous montre que tu es avec nous et tu marches avec nous et tu continues avec nous, Seigneur. Oui, s'il nous est arrivé de tomber, pardonne-nous, Seigneur. Et nous venons à toi ce matin, Seigneur, cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que tu es là et tu vas nous accompagner. Quelles que soient les difficultés, Seigneur, tu es toujours avec nous. Merci parce que tu es bon et que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen.